L'émission que vous allez suivre maintenant n'est pas un direct. C'est une rediffusion.
Dernier appel pour les passagers du vol 3 Airlines. Prière de se présenter à l'antre de la Vibe. Embarquement immédiat. Choisissez votre place et installez-vous confortablement.
Classico. Classico. Votre émission qui traite des questions d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. Classico, c'est le rendez-vous pour vous qui voulez construire le Cameroun. Classico, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h, avec Nadine Enonguet.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce mardi en Classico sur volume 3. Merci de nous retrouver donc entre 10h et 12h sur 87.9, volume3media.com ou encore sur l'application volume 3 Cameroun que vous pouvez, que vous avez déjà certainement téléchargé ou que vous devez télécharger sur Play Store pour emmener la vibe avec vous partout. Si vous êtes nouveau, si vous arrivez pour la première fois dans notre salle d'embarquement, vous êtes au bon endroit, c'est sûr, pour parler d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. L'équipage est au complet, les voyants sont au vert. Toutes les vérifications d'usage sont faites et voici donc notre plan de vol.
Aujourd'hui en Classico, intéressons-nous au bureau d'information sur le crédit de la CEMAC. Ensuite, on va parler d'économie verte avec notre passager du jour, Kamoa Tebe Constidilan. Au marché, on va acheter du sésame. On fera escale chez Diane. En innovation, découvrons Bank Feed. Afrique Économie nous parle du sous-sol d'un musée belge aux mines congolaises et de l'enjeu des archives géologique de la RDC.
Une fois de plus, bonjour et bienvenue en Classico. Habituellement, le mardi, l'expertise nous emmène du côté de l'agriculture. On va un tout petit peu changer de cap aujourd'hui. On va encore parler d'économie. Et aujourd'hui, c'est focus sur le bureau d'information sur le crédit de la CEMAC, ouvert le 20 janvier dernier à Douala. Quelle est l'utilité de ce bureau dans la sous-région Afrique centrale? Quelles sont ses missions? À qui il est destiné? Et justement, pourquoi l'implanter à Douala? Et quels sont les résultats qui sont attendus avec ce bureau? Élément de réponse, c'est avec notre expert, Lucas Ayé.
L'expert dans Classico.
Le bureau d'information sur le crédit de la CEMAC, quelle est l'utilité de ce bureau dans la sous-région Afrique centrale? Quelles sont ses missions? À qui est-il destiné? Pourquoi l'implanter à Douala? Quels sont les résultats attendus avec ce bureau? Bon, en fait, Nadina, la première question de savoir quelle est l'utilité du BIC dans la sous-région Afrique centrale, nous disons tout simplement aux auditeurs, aux auditeurs de volume 3 que antérieurement ouvert le 20 janvier dans la localité de Douala, ce bureau jouerait un rôle crucial dans la sous-région Afrique centrale. Son objectif principal serait de centraliser et de partager des informations financières relatives aux emprunteurs au sein de la CEMAC. Et c'est justement pour cette raison que ces derniers, les auditeurs de volume 3, doivent retenir, Nadine, que l'existence ou la présence du bureau d'information sur le crédit dans la ville de Douala procurerait plusieurs avantages, notamment les avantages liés à l'amélioration de l'accès au crédit. Tout simplement parce qu'en fait, il fournit aux établissements bancaires et aux institutions financières des informations fiables sur les historiques de crédit. Et il réduirait les risques de défaut et faciliterait l'octroi des prêts. Et en deuxième ressort, au titre des avantages, le BIC faciliterait également le renforcement de la transparence financière. C'est pour cette raison que Nadine, il est aussi important qu'à cet effet, que les auteurs retiennent que sa présence à Douala contribue dans ce second registre à une meilleure gestion des crédits et à une discipline financière accrue tant pour les ménages que pour les petites et moyennes entreprises. Et en troisième ressort, la présence du BIC permettrait ou faciliterait le développement économique puisque il favorise ou il facilite l'accès au crédit tout en renforçant la confiance entre les emprunteurs et les institutions financières et bancaires. Donc le BIC par débat tout devient un levier stratégique pour le développement économique des États de la zone CEMAC. et ainsi que pour la modernisation de leur secteur financier. Donc, en français facile, les auteurs doivent seulement retenir que le BIC s'inscrit dans la dynamique de construction d'un système financier plus solide, inclusif et performant dans la sous-région Afrique centrale. Bon, maintenant, à la question de savoir quelles sont ses missions. Nous disons tout simplement, Nadine, à l'endroit toujours des auditeurs de Volume 3, c'est que le Bureau d'information sur le crédit, en abrégé BIC, de la CEMAC, a pour mission principale de centraliser comme et de diffuser les données fiables sur la solvabilité des emprunteurs. Donc, cela visera à améliorer l'évaluation du risque, à faciliter l'octroi de crédits à des conditions plus compétitives, tout en contribuant également à la réduction des créances douteuses dans les différents portefeuilles des banques. Donc, les missions clés du BIC incluraient de façon précise la collecte et le partage de l'information. Dans un premier temps, dans la perspective de recueillir et partager les données sur les historiques des crédits des emprunteurs. Dans un deuxième temps, il y a l'évaluation du risque. Ceci dans la perspective d'aider les institutions financières à évaluer le risque de crédit de manière plus précise. Et dans un troisième temps, il y a l'amélioration de l'accès au crédit. Tout simplement, cela, par ce canal, le BIC faciliterait l'accès au crédit pour les ménages ainsi que les petites et moyennes entreprises qui font face à une difficulté plus accrue actuellement de l'accès au crédit. Dans un quatrième temps, on peut quand même évoquer au titre des missions le renforcement de la transparence financière. Pourquoi ? Parce que la présence du BIC ou l'existence du BIC, c'est-à-dire le Bureau d'information sur le crédit, Nadine, de la zone CEMAC, contribue à promouvoir une meilleure gestion des crédits ainsi que l'implémentation d'une discipline financière qui va davantage être plus accrue. Et en dernier ressort, il y a l'éducation financière. Et à cet effet, le BIC contribuerait à l'éducation financière des acteurs et au renforcement des capacités en matière de sécurité et de protection des données. Donc, pris sous cet angle-là, au titre des missions sus-évoquées, Nadine, nous disons tout simplement l'endroit du docteur qu'ils doivent retenir que le BIC, c'est-à-dire le Bureau d'information sur le crédit de la CEMAC, est un outil stratégique mis en place pour soutenir le financement des économies de la CEMAC et promouvoir également l'inclusion financière dans la sous-région. Mais lorsque nous avions dit à la question de savoir à qui le BIP est destiné, les auteurs auditrices de Volume 3 doivent retenir que le Bureau d'information sur le crédit de la CEMAC est destiné à plusieurs catégories d'acteurs. Il y a les institutions financières, les entreprises, les particuliers, ainsi que les autorités de régulation, sans ignorer les acteurs économiques. Mais de façon précise, s'agissant par exemple des institutions financières, on peut évoquer les banques, les établissements de microfinance et autres institutions financières d'ASEMAC, dans la perspective d'évaluer la solvabilité de leurs emprunteurs. Mais maintenant, pour ce qui est des entreprises, on peut citer les petites et moyennes entreprises ainsi que les grandes entreprises, dont la probabilité d'accéder à des crédits à des conditions plus compétitives semble être plus importante. Et il y a les particuliers. Et dans ce registre s'inscrivent les ménages et les individus qui pourront être désormais disposés à avoir accès à plus de crédits dans la perspective de la résolution de leurs besoins personnels. Et il y a également les autorités de régulation communale. Ceci dans la perspective de renforcer la surveillance et la régulation du secteur financier. Et en dernier ressort, il y a les acteurs économiques qui, ceci, c'est dans la perspective pour contribuer à l'éducation financière et au développement économique de la sous-région. Donc, de façon implicite, le bureau d'information sur le crédit viserait à améliorer l'accès au crédit, à renforcer la transparence financière dans la CEMAC. Mais maintenant, pourquoi est-il implanté à Douala? C'est une question qui semble être très pertinente, Nadine. Mais maintenant, c'est qu'à ce niveau-ci, à titre de réponse, les auteurs devaient savoir qu'en fait, la localité de la ville de Douala a été choisie pour plusieurs raisons stratégiques, notamment la position géographique centrale de cette ville, les infrastructures, en fait l'infrastructure existante, le rôle du Cameroun dans la CEMAC, l'accès au marché financier. Et ce que les auditeurs doivent savoir, c'est que par rapport au positionnement géographique central de la ville de Douala, Nous disons tout simplement que Douala, étant la capitale du Cameroun, est un hub commercial important en Afrique centrale, facilitant ainsi l'accès aux institutions financières et aux entreprises de la région. Et la deuxième raison, comme l'avion dit, l'infrastructure existante, c'est parce que la ville de Douala regorge d'une infrastructure financière et technologique développée qui faciliterait l'implantation et le fonctionnement de cette institution ou bien du BIC. Et en troisième ressort, le rôle, comme nous l'avions dit, vraiment, du Cameroun au niveau de la CEMA, il est de l'avis général que le Cameroun, en fait, est le meneur, le leader de la zone CEMA. Parce que, en fait, le Cameroun, à lui, ça représente 42% du produit intérieur brut de la zone CEMA. Donc, et l'implantation du bureau d'information sur le crédit à Douala renforcerait la position de notre pays dans la région. Et en dernier ressort, l'accès au marché financier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Douala est un centre financier important en Afrique centrale, avec une présence significative des banques et des institutions financières, ce qui faciliterait la collecte et le partage des informations liées au crédit. Donc, l'implantation aussi, les auditeurs doivent savoir en fait que l'implantation du BIC à Douala vise tout simplement à améliorer l'accès au crédit, à renforcer la transparence financière, à promouvoir le développement économique dans la région CEMAC.
Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant. Vous êtes à l'écoute de Classico sur volume 3, le rendez-vous par excellence de l'économie, de l'entrepreneuriat et d'innovation sur la fréquence 87.9. Voilà, il est temps de recevoir notre passager du jour. Je vous laisse découvrir à deux qu'il s'agit.
Notre passager du jour est titulaire d'une licence en technologie, option génie industriel et maintenance obtenue à l'IUT de Douala. Son entreprise se positionne comme un acteur clé de l'économie verte au Cameroun. Il a développé des machines pour transformer le plastique et il arrive à partir de la transformation de ces plastiques à produire du carburant. Classé quoi, le plaisir de recevoir Kamwa Tebe Consti Dylan, promoteur de Green Build Sarl. Bienvenue à bord.
Le passager du jour dans Classico.
Je suis tout le temps particulièrement contente lorsqu'il faut parler d'économie verte dans ce programme, parce que c'est pas des profils qu'on rencontre à tous les coins de rue et pas vraiment tous les jours. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Monsieur Consti Kamwa. Bonjour.
Bonjour Nadine, bonjour. Bien. Également à toute l'équipe en studio et aussi grand bonjour à tous vos auditeurs. C'est un grand plaisir d'être ici sur Classico, cette émission de référence et surtout sur les antennes de volume 3.
Voilà, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler aujourd'hui de votre secteur d'activité et Green Build Sound. C'est une entreprise qui naît en 2024, si je ne me trompe pas.
Effectivement.
Pour fabriquer des machines à usage écologique. Moi, j'ai pas compris. Machine à usage écologique, c'est quoi? Il y a des machines qui sont pas à usage écologique.
Machine à usage écologique, tout simplement, comme le nom l'indique, c'est que la machine a deux sens. Le premier, c'est écologique à cause du système de transformation qui est le plus écologique possible, c'est-à-dire moins de production de CO2, c'est-à-dire également moins d'émissions de gaz. Et également à cause du rendu, c'est-à-dire ce qu'on obtient à la fin comme produit, qui sont des produits généralement utilisés pour réduire ce qui se fait aujourd'hui en termes de consommation et en termes également de production de CO2.
D'accord. Si également j'ai bien fait mes devoirs dans ce projet, vous êtes associé à Boris Tinda.
Oui, associé à Boris Tinda qui aujourd'hui est responsable technique de la start-up.
Qu'est-ce qui vous pousse à vous mettre ensemble ?
Boris Tinda, c'est un camarade depuis la première année à l'UT Douala. Mm-hmm. Nous avons eu plusieurs projets, d'abord en DUT et ensuite en licence que nous avons soutenu ensemble et que nous avons, par le fil du temps, eu des objectifs communs, celui de bâtir notamment un start-up qui allait dans le sens d'une implémentation beaucoup plus entrepreneuriale de ce projet qui était académique et semi-professionnel.
Bah, vous auriez pu être des camarades de fac et avoir des points de vue divergents pour le monde professionnel. Est-ce que c'était si évident que ça, que c'est lui que vous auriez comme partenaire ?
Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais l'intérêt est que la vision qu'on avait, c'était qu'au-delà de l'aspect académique, parce que nous sommes tous deux, je suis major de ma promotion et lui, il vient tout juste en bas. Et nous avons eu cet instinct-là de se dire, OK, après le côté académique, et si on passait à quelque chose de beaucoup plus intéressant sur le plan professionnel ? Okay. Et c'était lui le seul qui était disposé à sortir d'une théorie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus pratique et surtout qui pourrait engendrer des revenus. Donc, nous sommes mis ensemble et voilà aujourd'hui, vous avez Greenbird Sahara.
Bah, comment se met en place cette collaboration, c'est vous qui venez avec le projet, vous lui en parlez, vous mettez en commun vos différentes visions, comment ça se fait concrètement et puis vous décidez de créer l'entreprise tous les deux?
Voilà la petite histoire, c'est qu'en licence à l'UT de Douala, il y a ce qu'on appelle des projets tutorés ou un projet professionnel qui font l'objet de soutenance en fin d'année.
Oui.
Et bien c'est de cette initiative là que nous avons décidé tout d'abord de prendre ce projet comme un projet académique. Mm-hmm. Donc Tinda et moi nous sommes dit ok, voici un projet que nous avons pensé. Je me rappelle encore de ça pour la petite anecdote, c'est que nous étions assis à l'amphi 200 de l'UT de Douala et nous disions, parce qu'en deuxième année déjà nous avions eu à faire un projet similaire mais qui était beaucoup plus pour la transformation de déchets plastiques en matériaux de construction.
Mm-hmm.
Et cette fois-là assis en salle dans l'amphithéâtre 200 de l'UT Douala, nous sommes dit, et si nous pensons plutôt à transformer les mêmes déchets plastiques en un autre produit, tout aussi consommé et tout aussi désirable, et on parle ici du carburant.
Mm-hmm.
Et l'idée nous est venue ainsi. Tout d'abord, nous avons pris ça tout simplement comme une anecdote, comme un petit moment de plaisir, mais par la suite, nous sommes dit, et si on faisait des recherches et si on essayait ? Ce que nous avons fait, et en troisième année, licence à l'UT de Douala, ingénieur industriel et maintenance, nous sommes dit, nous allons mettre en application ce projet que nous avons pensé. Nous avons étudié, nous l'avons proposé, il a été accepté, il a été validé, et nous l'avons soutenu, et la mention a été donnée. Donc, nous sommes dit, passons à autre chose, implémentons cela à une échelle plus grande.
D'accord, et donc, vous êtes ce qu'on appelle mécanicien industriel.
Mécanicien industriel.
Quand on est mécanicien industriel, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on connaît le mécanicien des voitures, mécanicien industriel, lui, c'est quoi ses missions ?
Il est vrai que globalement, c'est d'abord maintenancier industriel.
D'accord.
Mais nous sommes beaucoup plus orientés mécaniciens industriels, comme vous avez dit, puisque nos machines sont beaucoup plus mécaniques et bien sûr avec d'autres aspects de l'industrie, que ce soit l'électrotechnique et autres. Mais lorsqu'on parle de mécanique ou bien de mécanicien industriel, c'est tout d'abord dans ce sens-là qui consiste à se dire toutes les machines que nous produisions doivent avoir une exploitation industrielle, c'est-à-dire une échelle assez importante. Ça, mm-hmm. c'est d'abord d'un. Et de deux, maintenant, c'est que nous devons être en mesure d'assurer l'entretien. Et c'était une chose vraiment essentielle pour nous, c'est que sur le plan local, est-ce que nous pouvons assurer l'entretien des machines que nous produisons?
Mm-hmm.
Donc, voilà les deux mots-clés qu'il faut retenir lorsqu'on parle de mécanicien industriel.
C'est si facile que ça de fabriquer ces machines localement, entre matières premières, confection et tous les autres aspects que je suis sûr que je n'entrevois pas, parce que ce n'est vraiment pas mon métier.
Oui, je comprends très bien. Eh bien, c'est intéressant que vous dites ça, parce que le plastique, on le voit partout. Marché, supermarché, quartier, le plastique est vraiment partout. Mais en termes plus précis de chiffres, le plastique, c'est 600 000 tonnes de déchets. Le Cameroun, c'est 6 millions de tonnes de déchets, mais le plastique, lui, représente 600 000 tonnes, donc soit 10%. Et plus étonnant encore, seul 1% de ces déchets sont recyclés. Mmh. Donc, en termes de matières premières, nous sommes assez confortables pour dire que nous en avons assez et que nous avons une large exploitation dans ce sens-là. Déjà, ça, c'est d'un. En termes de machines, maintenant, c'est clair, ce n'est absolument pas facile parce que dépendant des caractéristiques que les clients ont et surtout de leurs besoins,
mmh.
notamment en termes de taille, en termes de spécificité ou encore même en termes de volume de production. Donc, tous ces paramètres-là, nous, à Greenbusard, nous avons réussi à les adapter, notamment en créant des équipes autonomes. Nous avons plusieurs départements, que ce soit au niveau du marketing, que ce soit au niveau de la conception ou même de la fabrication. Et nous n'allons pas également nier le fait que nous sommes en partenariat également avec d'autres start-up qui nous aident dans le développement de nos activités.
Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites des machines en fonction des besoins des PME?
Exactement, en fonction des besoins des PME.
D'accord, mais quand même, il y en a quelques-unes que vous avez déjà fabriquées et que vous exploitez sur votre site.
Exactement, nous avons quelques-unes que nous exploitons sur site et même d'autres que nous avons fabriquées et qui, sont aujourd'hui utilisées dans la sous-région.
Mm-hmm. Oui. D'accord, justement parmi les machines que vous avez à disposition et qui vont permettre de faire la transformation du plastique, de ce que j'ai pu voir un peu, les noms là étaient compliqués à moi, du coup il faut qu'on répète ici aujourd'hui pour,
d'accord.
pour le commun des mortels.
D'accord.
Dans lesquels vous avez sur site et c'est quoi leur fonction?
D'accord, actuellement les machines qui sont en cours de réalisation, nous en avons trois sur site. Nous avons tout d'abord le pyrolyseur distillateur. Le pyrolyseur distillateur, c'est tout simplement la machine qui permet le procédé de transformation des déchets plastiques en carburant.
D'accord.
Carburant, c'est vrai, il y en a plusieurs types, que ce soit diesel, gazole, mais le pyrolyseur déjà, c'est la machine mère qui permet et assure cette transformation-là. Mm-hmm. Ça, c'est la première machine.
Okay.
La deuxième machine, c'est la déchiqueteuse densifieuse.
Mm-hmm.
Le plastique, lui, il est volumineux, c'est-à-dire tout simplement qu'il prend ou bien occupe beaucoup d'espace, mais en termes de masse, il n'est pas vraiment considérable.
Okay.
Donc le défi ou bien la réalisation que fait cette machine, c'est surtout de densifier le plastique, c'est-à-dire réduire ce volume et lui donner beaucoup plus de masse.
D'accord.
Ainsi, on a une large quantité de matière première qui est utilisable et surtout pour un volume qui est peu occupé.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'est la deuxième machine. Et la troisième machine maintenant qui est tout aussi intéressante, c'est aujourd'hui la gazifieuse.
D'accord.
La gazifieuse, c'est celle-là qui permet d'obtenir la transformation des déchets plastiques en un combustible. Intéressant, c'est que le combustible est par la suite utilisé dans des foyers spécialisés qui sont conçus par nos équipes.
Ok.
Installé dans ce foyer spécialisé là, il permet de produire du gaz domestique qui est ensuite utilisé dans les ménages et dans tous les autres milieux de restauration et où ses besoins en énergie sont nécessaires.
D'accord. Justement, on va rester sur cette partie transformation de déchets là. C'est, on va dire quoi, dans les grandes lignes, tout part du plastique, mais est-ce que c'est tous les plastiques, tous les types de plastiques? Parce qu'on a le petit nylon là, dans lequel on emballe les trucs, c'est du plastique. On a les bidons, on a dans tous les différents, je ne sais pas s'il faut des différents types de plastique ou formes de plastique, lesquels vous transformez finalement ou c'est, tout est bon?
La question intéressante, c'est que au départ, nous nous disions également comme vous, au tout début de nos recherches, au tout début de la start-up, c'est que nous avons 600 000 tonnes, donc tout type de plastique, ça inclut dans les 600 000 tonnes. Donc nous allons travailler, nous allons exploiter tout cela, mais intéressant, il y en a plusieurs types. Les PET, qui sont les PET, si vous voulez, les polyéthylènes. Et nous avons les polypropylènes aussi, les PP.
Mm-hmm.
Nous avons PET, nous avons PP, nous avons PE. Et les PET, par exemple, qui sont des plastiques durs ou bien durcissables, comme les bouteilles plastiques. Également, aussi, vous pouvez avoir des contenants plastiques.
Mm-hmm.
La difficulté avec ceux-là, c'est qu'ils ne sont pas véritablement productifs ou bien efficients dans la production.
Okay.
Surtout en termes de rentabilité, ils sont assez bas.
Mm-hmm.
Donc, vous voyez donc qu'on est limité ou bien réduit à ces deux types de plastiques qui sont les PP et les PE. Principalement.
D'accord.
Oui, nous avons, c'est vrai qu'il y a moins de densité, mais je ne vais pas entrer dans la technicité.
Ça va être compliqué pour nous tous.
Vraiment sur ces deux-là, oui.
D'accord. Aujourd'hui, ça se passe donc comment pour avoir les différents plastiques que vous transformez? Parce qu'il y a le volet, oui, cette matière-là, on se dit que c'est des ordures, mais on sait qu'on vient de lancer également la Bourse nationale des déchets et que la bataille va déjà être compliquée. Il y avait déjà ceux qui achetaient pour ci ou pour ça. Mm-hmm. En attendant qu'on arrive véritablement sur la bataille des déchets plastiques pour qui peut mieux acheter, comment est-ce que vous vous approvisionnez aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est intéressant, c'est qu'il nous fallait tout d'abord une licence d'exploitation parce qu'au Cameroun, c'est bien régulé. Les déchets sont bien sûr bien régulés par la loi. Donc, vous ne pouvez pas tout simplement vous lever un matin et dire « je vais exploiter tout type de déchets » ou bien commencer à utiliser tout type de déchets. Donc, la première chose que nous avons essayé de faire, c'est nous rapprocher de la mairie.
Mm-hmm.
Nous sommes déjà entrés en contact avec l'un des conseillers municipaux, notamment la mairie de Bonaberry, de Douala Kakriem.
Mm-hmm.
Donc, actuellement, ce que nous faisons, c'est que les CRIs, durant les sessions qui sont organisées de campagne de ramassage de déchets plastiques, nous allons justement vers ces sections-là pour récupérer les déchets qui sont accumulés, qui sont ramassés. Nous faisons également des cris et des passages dans des ménages
okay.
aujourd'hui pour collecter. Et avec nos équipes, nous faisons donc la collecte, le cri, ensuite le nettoyage même de ces déchets plastiques-là que nous réutilisons par la suite. Mais je tiens juste à préciser que cela est beaucoup plus en termes expérimental parce que nous produisons plus de machines
mm-hmm.
que nous-mêmes nous produisons de produits.
Oui.
Mais pour bien montrer l'efficience de nos machines, il faut bien que nous-mêmes nous soyons des utilisateurs.
Bah justement, c'est plus expérimental, mais est-ce qu'on ne va pas avoir, au fur et à mesure que vous montrez que c'est possible, plus de demandes de ce côté-là? Parce que si vous dites que oui, le plastique qui est le déchet, on peut avoir du gaz domestique, on peut avoir plusieurs, je ne sais pas s'il faut dire, types de carburant. Est-ce qu'on ne tend pas à vous emmener beaucoup plus dans cette direction-là aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est vrai, je pourrais dire ça, parce que, voyez-vous, le deuxième contrat que nous avons eu l'année passée en 2025, c'était venu du Tchad.
Mm-hmm.
C'était Almirey Group, c'est un groupe tchadien également qui fait dans des activités caritatives. Donc, ce que Almirey Group voulait, ce sont des machines qui puissent être utilisées, qui puissent être données à des femmes, que ce soit des femmes qui sont des veuves ou bien encore dans des cités communautaires qui auront besoin de ce type d'énergie-là.
Mm-hmm.
Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont dit, d'accord, nous avons vu vos vidéos, nous avons vu vos produits, nous voulons voir exactement comment est-ce qu'ils fonctionnent et nous assurer que le volet sécurité, le volet conformité également est respecté. Donc, ce que nous avons fait, nous avons produit ces machines-là, nous sommes arrivés là-bas, mais nous ont ensuite demandé, c'est là que ça devient intéressant, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider dans le processus de production?
Mm-hmm.
Donc, aujourd'hui, nous faisons également, au-delà de la production des machines, l'accompagnement vers la production même des revenus ou bien du produit qu'on obtient à la fin.
D'accord.
Donc, effectivement, nous pouvons tout à fait nous diriger vers ce sens-là.
Donc, votre ambition, c'est plus d'accompagner les gens pour qu'ils puissent produire eux-mêmes et pas vous devenir producteur de carburant et de gaz.
Exactement. Mais comme je vous l'ai dit, l'opportunité qui pourrait s'offrir, nous sommes toujours prêts à aller également vers le sens de la production. Mais pour l'instant, nous sommes focalisés et beaucoup plus concentrés sur la conception et la réalisation de ces machines.
D'accord. Justement, pour la conception et la réalisation de toutes ces machines-là, comment est-ce que ça se passe? On prend des... Comment on va dire ça? On fait la conception de A à Z où on s'inspire des modèles qui sont déjà existants et on modifie juste, je ne sais pas s'il faut dire, les mécanismes pour que ça devienne écologique ou bien c'est ça pour sa création, même si on va dire qu'on ne crée rien.
Donc, je comprends très bien la question, c'est intéressant. Effectivement, je voudrais dire qu'il y a des modèles déjà existants.
Mm-hmm.
Mais l'intérêt que nous apportons, ou bien la plus-value que nous apportons, c'est surtout au niveau de comment est-ce que nous pouvons, un, contextualiser ces modèles-là par rapport à notre territoire. C'est-à-dire, par exemple, les types de déchets plastiques que nous avons ici ne sont pas textuellement les mêmes. Et nous avons également le fait que le type de production ou bien le produit que nous utilisons sont généralement différents.
Okay.
Donc, ce que nous sommes dit, c'est est-ce que nous ne pouvons pas apporter une plus-value en essayant de modifier ces machines-là et d'y apporter encore plus sur le plan technologique afin que ce soit beaucoup plus adaptable, beaucoup plus confortable pour l'utilisateur et surtout beaucoup plus efficient et productif. Donc, c'est pour cela que vous avez des machines qui sont utilisées aujourd'hui par la simple ménagère, nos foyers spécialisés,
mm-hmm.
qui est très adaptable et très facile sur le plan pratique, qui lui permet de faire sa cuisson de manière tout à fait autonome et tout à fait facile. Donc, ça, c'est le premier plan. Également, nous avons aussi pensé à l'aspect coût, qui mm-hmm. est vraiment important. Ailleurs, il y a des modèles existants, mais en termes de coût, qu'est-ce que ça représente? Essayer de commander la même machine en Chine et autres, vous comprenez que ça devient beaucoup plus compliqué pour le panier de la ménagère et même pour tout simplement le pouvoir d'achat mm-hmm. de nos différents clients. Donc, c'est pour cela que nous avons pensé à plus, comment transformer cela pour l'adapter à notre contexte en apportant une plus-value technologique que nous avons eue dans nos études et surtout dans notre façon de voir ce que devrait être aujourd'hui la technologie pour l'Afrique.
D'accord, je veux qu'on s'arrête un peu sur ce foyer spécialisé à destination des ménages. C'est le fait que vous produisiez déjà du gaz et des carburants avec le plastique qui vous a poussé à développer ce foyer-là?
Effectivement. Plus intéressant, c'est le fait que nous avons eu beaucoup de temps. Si je peux dire, je vais appeler ça, je ne vais pas dire une perte de temps, mais je vais dire beaucoup, nous avons pris beaucoup de patience avec Y parce qu'il fallait ici assurer la conformité des produits qui étaient obtenus mm-hmm. par nos machines. On parle de carburant, mais
oui.
Est-ce que c'est un carburant directement utilisable? Est-ce que nous avons la licence déjà pour vendre ce carburant?
Mm-hmm.
Donc, toutes ces contraintes-là nous ont permis de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à une solution qui est déjà applicable à l'instant, qui va permettre déjà de se déployer sur le terrain et
sans dépendre des autorisations.
Sans dépendre du tout de tous ces éléments-là. Donc, nous avons directement pensé à nos foyers écologiques. Nous avons testé, nous avons appliqué, nous avons révisé et nous avons également vu que ça se faisait aussi ailleurs,
mm-hmm.
ça il faut le dire, mais l'intérêt que nous avons eu c'est que le produit qui était utilisé comme combustible
mm-hmm.
ailleurs, ça générait des produits toxiques ou bien dégageait des gaz toxiques, mm-hmm. toxiques qu'on appelle acides aromatiques
ouais.
Et nous avons essayé de nous dire, est-ce que nous ne pouvons pas aller dans ce sens pour développer mieux ce produit afin de le rendre plus vendable, mais aussi et surtout conforme et sécurisé. Donc c'est ce que nous avons fait, nous avons testé donc le dernier produit et c'était impeccable. Et aujourd'hui, nous restons toujours dans la R&D, c'est-à-dire la recherche et le développement par rapport à ces produits-là, mais nous pouvons vous assurer que, et Peter, qui sait, vous aurez l'opportunité d'essayer ce produit-là et vous pourrez vous-même constater de l'efficacité. Donc voilà.
D'accord, donc c'est un foyer spécialisé qui fonctionne au gaz que vous produisez, c'est ça?
Oui, qui fonctionne le produit qui permet de recevoir un produit dans son réservoir qu'il convertit à partir d'un système intégré en gaz domestique.
Ça m'a l'air lourd quand j'entends qu'il reçoit un produit qui permet de...
Et c'est ça le génie.
Visuellement, j'essaye de voir.
Exactement, vous voyez quelque chose de tout de suite encombrant, tout de suite très lourd. Et c'est ça un peu le génie de chez Greenpulse, c'est qu'on veut tout rendre plus facile, même ce qui semble très complexe. Donc, vous verrez tout simplement que ce foyer-là ne pèse même pas plus de 10 kg. Et même en termes d'encombrement, vous verrez également que la taille est tout à fait confortable. C'est-à-dire que vous pouvez l'installer tout de suite dans votre cuisine, dans un coin, et vous pouvez cuisiner et tout à fait le retirer par la suite sans besoin même d'aide ou bien sans besoin de vous tracasser. Donc, ce foyer-là, il est très autonome, très adaptable et très confortable pour nos clients.
D'accord, sans aucun garantie, sans aucun danger, même s'il y a un procédé de transformation du gaz et qui, on va dire quoi, pour l'aspect sécurité, parce que ça reste quand même des produits inflammables.
C'est ce genre de ça. Effectivement, l'aspect sécurité a été considéré le plus parce que tu as beau vendre, mais si tu es pour vendre pour tuer, ça devient beaucoup compliqué. Donc l'aspect sécurité était en cela que nous avons mis un dispositif qui fait une séparation nette entre le système de transformation de nos combustions de ce produit-là en gaz domestique et le réservoir qui accueille le combustible inflammable. Donc, c'est séparé, net et conditionné de manière à ce que l'utilisateur n'ait pas à se soucier du mélange ou bien du système de production de son gaz. Si est-ce qu'il va exploser ou bien est-ce que je serai brûlé. Non, tout cela est inclus dans la sécurité que nous promettons à nos utilisateurs. C'est pour cela que nous donnons d'ailleurs une garantie de une semaine pour l'utilisation afin d'éviter tout désagrément.
D'accord, justement, ça veut dire que si votre foyer est conçu pour recevoir ce produit-là, ça veut dire que vous êtes le fournisseur par excellence du combustible pour chaque ménage qui adopte votre solution.
Exactement. Pour l'instant, c'est vraiment ce pour quoi on veut se diriger. Mais nous sommes en partenariat avec notre start-up, EcoFuel, qui, avec ce partenariat, nous avons décidé de leur donner le droit ou bien encore de travailler avec eux pour la production de ce combustible-là, pendant que nous serons concentrés plutôt sur la production des foyers.
D'accord, mais ça reste un partenariat où chacune des parties impliquées réussit à tirer son épingle du jeu.
Effectivement.
Voilà, puisque chacune des parties réussit à tirer son épingle du jeu, dans la deuxième partie, on va véritablement parler de coûts pour l'entrepreneur et pour les différents ménages. On va souffler un tout petit peu, à tout de suite.
Le passager du jour dans Classico.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant. Classico se poursuit, on entame la deuxième et dernière partie de notre échange avec notre passager du jour, Consti Kamwa, promoteur de Green Build Africa. Green Build ça, pourquoi Africa? Peut-être qu'Africa aussi, parce que vraiment c'est pas si faux que ça. Donc voilà, on parle depuis le début, c'est écologie, c'est économie verte, tout ce qui tourne autour de ça, transformation de déchets plastiques également, qui est possible. Maintenant, on va parler d'argent, parce qu'on va parler d'entrepreneuriat et ne pas parler d'argent. Du coup, aujourd'hui, déjà, combien de vous produisez des machines pour des entreprises camerounaises également qui vous sollicitent, ou c'est plus dans les autres pays de la sous-région ou bien de l'Afrique?
Pour l'instant, nous avons eu exactement 2 clients ici même au Cameroun.
D'accord.
Mais beaucoup plus dans la zone, dans la sous-région, notamment avec le Tchad, notamment avec le Congo.
Mm-hmm.
Mais nos clients sont le plus ancrés vers la sous-région.
D'accord. Comment ça se passe? C'est vous qui allez vers eux? C'est eux qui vous découvrent et qui font la démarche de venir vers vous? Ou bien c'est en faisant X ou Y projet, c'est plus la recommandation?
Ce qui se passe, c'est que la plupart de nos projets sont postés en ligne. Nous avons des réseaux sociaux, nous avons également des partenaires tels que l'ambassade de France, tels que l'agence universitaire de la francophonie et bien d'autres partenaires qui nous suivent et nous recommandent donc dans leur page et même aussi avec leurs partenaires. Donc nous avons eu par exemple le premier contrat ou bien le deuxième contrat que nous avons eu en 2025 venait d'une recommandation parce que le client a vu la vidéo, il a apprécié le prototype et il s'est dit d'accord, et si j'ai réussi à les contacter et avoir le numéro. Donc, la dernière fois, nous avons eu à faire la même chose avec un reportage avec un magazine bien connu. Et aujourd'hui, pourquoi pas, étant ici là même avec Volume 3, peut-être ça serait une autre opportunité pour nous.
Sait-on jamais.
Ne sait-on jamais.
Donc, ce qui veut dire que, au-delà des prototypes que vous avez sur votre site, vous ne produisez que s'il y a la demande?
effectivement, nous produisons surtout s'il y a la demande. Parce que nous voulons limiter le stockage. Mm-hmm. Nous préférons beaucoup plus aller vers une production sur demande que vers une production intensive qui pourrait tout simplement générer des coûts. Parce que ce qui est sûr, comme nous disons à maintenance, stocker, c'est aussi entretenir. Entretenir, c'est aussi des dépenses.
D'accord. Justement, ça prend combien de temps en fonction de la machine qui vous est demandée pour la production et jusqu'à la livraison?
Il est vrai que donner un temps ici, ça serait tout simplement généraliser nos clients parce que chacun vient avec ses besoins, chacun vient également avec ce qu'il recherche en termes de vitesse et de productivité. Mm-hmm. Donc, le temps qu'il me faudrait pour avoir la machine de Nadine ne serait pas nécessairement le temps qu'il faudrait pour avoir la machine de Consti.
Mais plus une question des délais du client ou de la complexité de la demande?
C'est beaucoup plus une question de la complexité de la demande. Maintenant, ça peut aussi aller avec le délai du client parce que s'il y a complexité et qu'il y a également un délai qui s'impose par rapport au budget qui est donné, mm-hmm. nous pouvons également
considérer ça. On en revient au budget. Le budget, c'est la clé, ça peut tout débloquer.
Oui, l'uncap.
Non, c'est important, mais quand même, on va dire quoi? Si on est très lent, c'est quoi le délai, on va dire quoi? Le plus long ou le plus court, je ne sais pas.
Jusqu'ici, le délai le plus long, c'est un mois. C'est-à-dire 30 jours.
Pour une machine?
Pour une machine.
Et pour faire ça, il y a combien de personnes à la manœuvre?
Des personnes à la manœuvre, si je peux comptabiliser, entre l'équipe de conception-réalisation et l'équipe également de mise en application et tout le reste, je peux considérer quelque chose comme 27 à 30 personnes.
Quand même?
Oui, quand même.
Ce qui veut dire que chiffre, ça rigole pas. C'est quoi le coût minimum d'une machine qui vient de chez Gridbuild?
Le coût minimum d'une machine qui vient de chez Gridbuild, parce que je fais la part des choses, il y a les machines directement utilitaires comme nos foyers écologiques, mm-hmm. mais également nous avons aussi les machines beaucoup plus semi-industrielles ou bien industrielles comme nos pyrolyseurs, nos gazéfieuses et autres. Mm-hmm. Donc le coût minimal en termes de budget pour nos machines telles que les pyrolyseurs et gazéfieuses, nous partons dans des montants de 2,5 millions et 4 millions de francs CFA. D'accord. Mais le minimal serait véritablement 2,5 millions de francs CFA.
Donc minimum pour un pyrolyseur, il faut mettre 2,5 millions
sur la table pour avoir votre pyrolyseur ou bien votre gazéfieuse. 2 millions et demi.
Et pour le foyer écologique?
Maintenant, pour le foyer, nous partons généralement sur 50 000 francs CFA.
Quand même.
Oui, mais ce qui est intéressant...
Dans 50 000 euros, on avait 20 litres de carburant, bien, c'est comment?
La partie intéressante, c'est que si, et c'est véritablement un problème que nous avons avec la mentalité camerounaise, entre guillemets, je suis aussi camerounais.
On sait.
Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si vous voyez ça comme ça, ou bien si vous entendez juste le montant, vous dites, waouh, 50 000, c'est quand même beaucoup. Il se croit. Mais en fait, si vous allez dans le sens du rapport qualité-prix, mm-hmm. c'est là que vous comprenez véritablement quelle est la plus-value et pourquoi ce prix. Mm-hmm. Si, par exemple, je vous donne une illustration simple. Oui. Si vous voulez acheter une cuisinière à gaz, mm-hmm. vous allez acheter la cuisinière à part et la cuisinière en elle-même va coûter quelque chose comme 50 000, peut-être plus. Mm-hmm. Ou bien peut-être un peu moins, peut-être 30 000, 40 000, mais on reste dans l'intervalle 30 50 000.
Okay.
Et maintenant, vous, ce que vous devrez faire, c'est que si vous voulez acheter une bouteille de gaz, il faudrait savoir que vous serez obligé d'acheter d'abord le contenant, mm-hmm. c'est-à-dire la bouteille de gaz même,
oui.
avant ensuite d'inclure le fait qu'à chaque fois, il va falloir que vous allez pour faire une recharge mm-hmm. et acheter une autre bouteille.
Oui.
Exactement. Mais lorsque vous prenez par contre notre foyer spécialisé, ça vous donne l'avantage, un, du fait que nous avons un réservoir. Mm-hmm. Vous n'avez pas besoin d'acheter une bouteille de gaz.
Okay.
Le réservoir est déjà considéré. Et en plus de cela, ça donne le fait qu'en comparatif au gaz domestique, qui est de 6 500 francs, mais tenez-vous tranquille, sans subvention de l'État, ce serait à 11 500 voire 12 500 francs CFA. Mm-hmm. Mais nous nous proposons pour la même quantité, c'est-à-dire 12,4 kg, un prix de 4 000 francs CFA.
Ah, donc le réservoir qui est dans le foyer écologique, c'est exactement quoi, la même quantité qu'une bouteille de gaz?
Le réservoir est conditionné aussi selon la capacité que vous voulez avoir.
D'accord.
Mais ce que je dis, c'est que par rapport à la quantité que vous avez lorsque vous achetez une bouteille de gaz conventionnelle, mm-hmm. nos quantités sont les mêmes. Et en termes de durée, les mêmes aussi, après les tests que nous avons faits, mais pour un montant beaucoup plus réduit.
Donc, on achète 12 kilos de votre solution à
4 000 francs CFA.
Quand oui. on achète comme ça, on peut utiliser ça même 8 mois, non?
Bon, ça dépend. Si vous préparez le compte chaque tous les jours, attendez-vous à ce que ce soit juste quelques jours. Mais en réalité, c'est que si vous avez cette contenance-là et que vous allez de façon rationnelle, mm-hmm. nous prévoyons également pour 5 litres mm-hmm. de nos produits une consommation générale de 12 heures.
D'accord.
Pour 5 litres.
Ok.
Oui. Donc, si vous allez de façon rationnelle, ça veut dire que pour exactement 22 litres, en faisant ce ratio-là, vous serez à quelque chose comme 12 fois 4.
Et mathématiques, ils ne sont pas mes amis. Ah, même seulement le 12 fois 4 là, c'est dur. Il faut qu'ils commencent à réfléchir. Cela, je refuse.
Donc, vous avez exactement cela. Donc, voilà, rapport qualité-prix, beaucoup plus que tout simplement la frayeur de voir le chiffre.
D'accord. Et après, dès que ça finit, on vous contacte, il faut venir livrer doucement ou bien il y a une procédure aussi.
Dès que ça
parce finit. Parce que si vous n'en produisez pas, puisque ce n'est pas votre métier premier, mm-hmm. bon, ou peut-être avec le partenaire, ça va devenir beaucoup plus simple.
Exactement. Avec EcoFuel, ça devient beaucoup plus simple parce que dès que ça fini, vous avez contact direct avec EcoFuel qui se charge de vous approvisionner.
Ça, c'est déjà sur le plan pratique possible.
Ça, c'est déjà sur le plan pratique possible, mais bien sûr, avec le fait que nous soyons limités par le financement, mm-hmm. qui fait que les quantités ne sont pas encore importantes. Il faut bien le dire.
D'accord. Ok, donc on va parler maintenant de la rentabilité aussi, quand même. En produisant, vous avez dit que vous avez eu deux commandes pour l'année dernière au Cameroun, dans d'autres pays. Quand même, vous réussissez au-delà de remporter des compétitions à côté et qui vous ramènent un peu de cash aussi à vous en tirer?
Tout à fait. Très intéressant même d'ailleurs, c'est que pour la première année de la start-up, nous avons eu un chiffre positif en termes de rentabilité, ce qui est assez rare. Mm-hmm. Mais je peux dire que c'est aussi par la grâce de Dieu. Je tiens à dire ça parce que pour une première année que nous tombons sur deux contrats successifs, mm-hmm. qui nous permet de faire d'une grande livraison. Mais en termes de rentabilité, la difficulté a été qu'au début, pour avoir déjà le prototype idéal, c'était énorme en termes de coûts et tout ça, de révision et tout le reste. Mais mm-hmm. une fois que vous avez le modèle typique,
oui.
la reproduction devient beaucoup plus facile.
D'accord.
Ce qui fait que si nous avons eu, par exemple, le contrat avec Almirec, mm-hmm. qui avait un pyrolyseur distillateur, c'était un contrat sur 4 millions de francs CFA. Mm-hmm. Nous avons eu pratiquement, en termes de coûts et de charges, nous étions à 2 500 000 francs CFA. Mm-hmm. Et s'il faut encore voir peut-être tout ce qui était comme imprévu, nous pouvons aller à 2 800 000 francs CFA.
D'accord.
Donc, vous pouvez imaginer ce que ça coûte, ce que ça vaut en termes de rentabilité.
Donc, ça veut dire que toutes les fins de mois, vous, votre associé et les 27 collaborateurs, ça va, on n'est pas en mode de grincement de dents.
Par la grâce de Dieu, nous sommes tranquilles.
Jusqu'ici. On va souhaiter que ça continue à se passer comme ça. maintenant, je veux qu'on parle un tout petit peu de... Parce que vous faites du carburant, bon, même si ce n'est pas l'activité première, sur place. Est-ce que quand vous l'avez produit, on le conserve sur place? Dans quelles conditions? Avant que, bien entendu, ça arrive chez ceux qui sont des utilisateurs de votre foyer.
Ce qui est intéressant, c'est que pour la conservation, bien sûr, vous pouvez le faire avec des récipients vitrés.
Okay.
Nous avons aussi de l'inox qui permet d'éviter qu'il y ait des éléments qui s'introduisent dans le carburant. Mais la conservation est plutôt assez facile.
D'accord.
À partir du moment où vous assurez que le matériau qui sert de conservateur est un matériau sécurisé, un matériau qui garantit qu'il n'y ait pas de mélange chimique, mm-hmm. oui, la conservation reste assez facile. Donc pour cela, nous avons ce matériel-là qui est généralement de l'inox dans lequel nous conservons nos produits qui sont obtenus.
Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'incidence avec la chaleur et toutes les autres manipulations de fer et des machines qui chauffent tout autour. Il n'y a pas de risque.
Bien sûr, le magasin est tout à fait isolé du reste du site de production.
D'accord.
Donc, ça permet de faire en sorte que le contact que vous craignez tant, celui de la flamme ou bien d'une étincelle qui pourrait tout faire exploser, non, rassurez-vous, c'est bien restreint et bien isolé.
D'accord. Aujourd'hui, si éventuellement quelqu'un écoute et qu'il a besoin de vous contacter, de venir vous rencontrer, comment ça se passe?
Eh bien, vous avez tout d'abord notre partenaire aujourd'hui, EcoFuel, mm-hmm. direct, avec qui vous pouvez tout simplement aller sur Facebook et taper EcoFuel, mm-hmm. et vous obtiendrez cela. Vous avez également nos numéros,
oui.
qui sont le
678 35 39 37.
Oui. Vous avez également le 677 85 84 64 et 26.
Donc, tous ceux qui ont éventuellement besoin de X ou Y machine, vraiment, je pense que en discussion directe,
oui.
vous pouvez mieux exprimer vos besoins et voir ce qui est possible d'être fait ou pas. Est-ce que au-delà d'avoir l'ambassade de France et tout ça qui ont reconnu un peu votre savoir-faire, vous avez déjà eu, en tant que des jeunes entrepreneurs, fait face aux doutes chez les autres? Est-ce que vous êtes, qui vous disent, est-ce que vous êtes vraiment capable de faire ce que vous dites que vous faites?
Absolument. Et c'est assez intéressant parce que plus vous êtes jeune, plus ce doute est permanent. Donc ça fait que c'est assez non seulement frustrant au début, mais surtout lorsque cela vous est dit et que vous voyez vous-même dans votre progression que vous êtes en train de déborder ces limites-là et ces préconceptions, toutes ces idées préconçues, vous vous dites « Waouh !» Finalement, ils ont tort, mais non seulement ils ont tort, mais je suis en train de prouver que c'est possible. Donc, ça fait que, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai 21 ans déjà, oui, et à ces 21 ans-là, avoir quelqu'un qui soit CEO ou bien promoteur d'une start-up, déjà, c'est tout à fait un défi. Mais maintenant, apporter à cela quelqu'un qui puisse avoir des marchés et tout cela, c'est pour ça que je continue à le dire. Il y a beaucoup la grâce de Dieu dedans. Et au-delà de la grâce de Dieu aussi, il y a beaucoup de détermination. Mais tout d'abord, la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes convaincus que nous suivons le bon chemin et que nous sommes sur la bonne voie.
D'accord. Justement, sur l'aspect financement qui semble être un vrai goulot d'étranglement pour vous, pour l'activité et tout ça, au-delà d'avoir été bénéficiaire du programme Startup 237, ça je pense avec l'ambassade de France et l'agence universitaire de la francophonie, est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment le moyen le plus simple de renflouer les caisses, on va dire, de remporter des prix ou d'avoir des subventions?
Il est vrai que je vous dirais en toute honnêteté, au tout départ, c'était vraiment l'essence. C'est-à-dire, c'est ça qui nous a permis le développement de nos activités.
De compétition en compétition.
De compétition en compétition. Mais sinon, si vous faites comme ça plusieurs fois, on va vous appeler compétiteur plus qu'entrepreneur. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes dit, OK, nous avons remporté cette compétition au niveau universitaire, un peu aussi au niveau professionnel et entrepreneurial, mais est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose? Rechercher des financements extérieurs, privés, ou bien d'associations, ou bien d'organismes. Et c'est ce que nous avons essayé de faire ces dernières années.
Oui.
C'est-à-dire que nous sommes allés vers des organismes comme Artemis SA, avec qui nous sommes en train de collaborer actuellement ici. Artemis SA, c'est une VC firm, c'est-à-dire un capital risque américain basé ici au Cameroun qui recherche justement les startups. Nous sommes également allés vers Favis Maza, qui est aussi un peu dans ce sens-là, qui nous encadre.
Oui.
Donc, beaucoup plus nous sommes dit, il faudrait rechercher des investissements qui ne sont pas plus comme des motivations, mais plus comme des possibilités de scalabilité. C'est-à-dire d'aller beaucoup plus sur le plan de l'échelle et également beaucoup plus sur le plan infrastructure et tout ce qui est logistique pour agrandir nos activités. Donc oui, je reprendrai tout simplement en disant que l'aspect compétition et remporter les prix, ça nous a énormément aidé. Il faut vraiment être reconnaissant pour cela. Nous remercions l'ambassade de France, nous remercions l'agence universitaire de la francophonie, le fonds Proto et tous ces organismes-là qui ont eu à reconnaître notre travail, à nous encourager par des financements. Mais aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que si nous voulons véritablement être compétitifs, il va falloir penser au-delà de ces bourses-là ou bien ces récompenses-là, mais penser beaucoup plus à entrepreneur. Entrepreneur, c'est prendre des risques de supporter des financements extérieurs, des financements privés, que ce soit par prêt ou bien que ce soit par actionnariat. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. C'est ce pourquoi aujourd'hui, nous travaillons.
D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes prêt à céder des parts et tout ça. Il y a absolument pas de souci.
Absolument pas.
D'accord.
C'est mieux d'avoir, comme on dit souvent, quelques pourcents d'une grande chose que 100% de rien du tout.
D'accord. Donc ça ne vous inquiète pas la partie perte de contrôle sur un projet que vous avez mis en place de bout en bout.
Disons que nous avons aussi des actionnaires qui sont assez féroces pour se dire que perdre du contrôle, peut-être pas vraiment perdre du contrôle, mais disons donner une possibilité justement à ces rêves que nous avons de grandir encore plus grand.
D'accord, justement, ce rêve de grandir là, on va continuer à le faire à Bonaberry, dans le petit coin que vous avez aujourd'hui, ou dans la logique d'expansion, il va y avoir une délocalisation?
Probablement dans la logique d'expansion, il se peut qu'il y ait une délocalisation parce que le côté Bonaberry, c'était beaucoup plus d'abord un site de conception et de test prototypage.
Oui.
Et maintenant, si on va aller dans un site beaucoup plus large qui consisterait à la production vraiment massive de machines, il faudrait bien sûr penser à un espace beaucoup plus approprié. Donc, effectivement, nous comptons nous exporter, mais par nostalgie aussi, par cet espace.
On va quand même garder cet espace.
On va quand même le garder, oui.
D'accord. Justement, on sait qu'au début, quand ça a commencé sur les bancs, il y avait justement la transformation de plastique en d'autres. On avait quoi, les pavés, les tuiles et tout ça. C'est complètement abandonné aujourd'hui ou dans la logique d'expansion, on va forcément y revenir?
Il est vrai qu'aujourd'hui, ça reste une activité assez secondaire chez Green Boots House, ça c'est vrai. Mais nous restons toujours dans l'optique de ce que, dans le développement de ces travaux-là, notamment, surtout, la partie qui nous intéresse, c'est au niveau de la consommation de ces déchets plastiques-là, en carreaux.
D'accord.
Un carreau bien synthétisé et qui nous permettra de voir ce marché-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste une activité secondaire. Et une fois que nous allons mieux nous exporter vers les autres activités, mieux les développer, nous penserons à revenir pour approfondir nos recherches sur le développement de cette activité-là. Et pourquoi pas, comme vous l'avez dit, si l'opportunité s'ouvre, de voir encore une niche ou bien encore de voir une possibilité de se faire de l'argent avec ça.
Les plastiques en carreaux. Je sentais trotter dans ma tête. On a déjà quand même fait des tests pour voir ce qui est possible ou bien non. Ça, on va vraiment se concentrer quand on aura la tranquillité d'esprit que tout le reste est complètement mis en place.
Il est vrai que nous avons fait des tests, mais la difficulté a été plutôt dans la continuité de la recherche. Parce que les tests n'ont pas toujours été concluants.
Mm-hmm.
La continuité de la recherche, nous ne l'avons pas pu le faire parce que nous avons d'autres activités autour qui étaient beaucoup plus florissantes et que nous avons voulu mener à terme.
D'accord. Pour sortir par là, quelle est la prochaine véritable étape que vous voulez atteindre avec Greenbuild?
Aujourd'hui, la prochaine véritable étape, c'est en trois volets. Très rapidement, le premier volet d'abord, c'est au niveau partenariat. Nous avons également beaucoup d'ONG, nous avons également beaucoup d'institutions même qui sont intéressées en ce qui concerne l'environnement. Nous avons aujourd'hui la SND30, la Stratégie Nationale de Développement instituée par le Président de la République qui insiste beaucoup sur le côté écologique, environnement et protection de la nature. Donc nous comptons et espérons que ces partenariats-là, nous pourrions les acquérir et aller plus vers ce sens. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce que nous visons également, c'est au niveau du financement, en espérant qu'on ait accès à des plateformes vraiment de référence comme cette plateforme-ci et Classico et même d'autres médias. Cela nous donne la possibilité d'avoir une grande visibilité et surtout d'avoir accès à ces personnes-là qui seront prêtes à investir pour voir ces rêves-là, mais pas que ces rêves, mais pour voir ici cette opportunité-là de transformer les déchets et de transformer tout simplement notre Cameroun. Et enfin, la dernière étape qui est aussi très crucial pour nous, c'est de voir aujourd'hui une équipe beaucoup plus solide, beaucoup plus encadrée par des aînés qui ont eu à passer par le même chemin et qui aujourd'hui sont arrivés à ce qu'on peut dire l'aisance entrepreneuriale. Parce que nous restons dans l'humilité, mais surtout aussi dans le désir d'apprendre de ces personnes-là. Donc, que ce soit, je ne citerai pas les noms, ils sont tellement nombreux, mais tous ces aînés-là, pour ceux qui nous écoutent, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles à apprendre, réapprendre et même désapprendre pour apprendre de nouveau.
Merci. Ah, je pense que vous êtes sur le bon chemin pour devenir de grands industriels dans quelques années, sait-on jamais. Merci beaucoup, M. Kamwa, d'être venu nous parler de ce beau projet pour la préservation de l'environnement. Voilà, nous, une fois de plus, on va marquer une petite pause et puis quand on revient, ce sera direction le marché.
Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Classico se poursuit sur volume 3. Le rendez-vous, c'est de lundi à jeudi entre 10h et 12h. Il est temps à présent de nous rendre au marché. Aujourd'hui, on va acheter de petites graines. Moi, je les préfère caramélisées. Pour vous, je ne sais pas. En tout cas, Via Lingaya nous propose d'acheter du sésame.
Écomarché, tous unis contre la vie chère.
Hier dans l'après-midi, je suis allé rendre visite à ma sœur et à mon arrivée, elle était en train de pétrir la pâte. Au moment de la mettre au four, elle rajoute quelques graines de sésame. Curieux, je lui demande pourquoi et elle me fait comprendre que c'est avant tout une affaire de goût. À mon retour chez moi, je fais quelques recherches sur les recettes qu'on peut réaliser à partir des graines de sésame et je tombe sur une préparation de sésame caramélisée. Pour la reproduire, j'ai décidé de me rendre au marché de Bouna Moussadi afin d'acheter ces petites graines et d'en apprendre davantage sur leur usage, leur qualité et leur disponibilité sur nos marchés. Une fois sur place, entre les étals bien garnis et l'animation habituelle du marché, je m'approche d'une vendeuse, question de me renseigner sur l'emplacement de ceux ou celles qui commercialisent ces fameuses graines. Souriante, elle m'indique un peu plus loin, là où sont exposés ces féculents. En m'y rendant, je découvre qu'elles sont toutes alignées en bordure de route, ces femmes qui commercialisent toutes sortes de produits secs. Elle m'explique que le sésame est très recherché, notamment pour la pâtisserie ou encore pour être grillé et consommé comme amuse-bouche. Selon elle, la qualité se reconnaît surtout à la propriété des graines, à leur couleur et à leur parfum une fois torréfié.
Le bon sésame, ça sort au Tchad. Non, c'est pas ce que tu veux ici, c'est ce que tu veux au Tchad. Oui, les gens achètent. Bon, les gens achètent le seau. Bon, beaucoup, ils achetaient beaucoup même. Ça se vend, si c'est le 5 litres, ça se vend à 6 000. Et si c'est le bassin, ça se vend à 12 000.
Et la bouteille comme ça, là, tu vends combien?
Je vends à 2 500. Bon, ça soigne beaucoup de maladies quand même. Ouais. Comme le nerf et le bouchon d'oreille, le mal d'oreille. Ça soigne aussi. L'huile de ça même, ça soigne.
Et comment on fait pour extraire l'huile de sésame?
On écrase. On appuie avec mortier, voilà. On fait avec mortier. On enlève l'huile là. On pèse. On enlève tout. Et quand l'oreille fait mal, tu mets un peu l'huile là, dessus. Ça soigne. Avec le miel, avec le sucre.
Comment on fait quoi avec?
Les gâteaux de sésame aussi. plusieurs façons. Même le pain, on fait le pain sésame aussi. Et le sésame, ça soigne beaucoup les maladies, les crampes, les nerfs et les articulations qui font mal.
Et les gens l'achètent beaucoup.
Beaucoup même. On mange. Il y a ceux qui gardent aussi pour accueillir même les invités chez eux. Par exemple, ce qu'on a fait avec le sucre là, ça soigne. Et par exemple, ce qu'on sèche seulement aussi, c'est bien pour manger.
Mais qu'en pensent réellement ceux qui les utilisent au quotidien ? Préfère-t-il le sésame brut ou ses produits dérivés?
Non, moi je consomme juste, hein, quelle que soit la forme sur laquelle je la trouve. J'en consomme souvent, je le trouve sur les gâteaux, à la pâtisserie, j'en consomme. Et j'en consomme aussi de manière brute, donc les graines même qui sont déjà séchées et qu'on en vend, je consomme aussi.
Et comment vous l'achetez?
Non, c'est en petite quantité. Je ne prends pas en grande quantité.
Le sésame est un aliment reconnu pour sa richesse nutritionnelle. Il contient des protéines végétales, des fibres et des acides gras essentiels bénéfiques pour l'organisme. Il est également riche en calcium, en fer et en antioxydants, contribuant au renforcement des os, à la protection du système cardiovasculaire et au bon fonctionnement du métabolisme. Toutefois, comme tout produit riche en matières grasses, sa consommation doit rester modérée. Au Cameroun, le sésame occupe une place croissante dans les habitudes alimentaires et dans l'économie agricole. Cultivé principalement dans les régions du Nord, de la Damawa et de l'extrême Nord, il constitue une source importante de revenus pour de nombreux producteurs. Mais très prisé sur les marchés internationaux, il participe également aux exportations agricoles du pays et contribue à la diversification de l'économie rurale. Au marché, le sésame séduit autant par ses qualités nutritionnelles que par sa polyvalence en cuisine. Consommé nature ou transformé, il s'adapte au budget des ménages. Entre tradition culinaire, valeur économique et bienfaits pour la santé, cette petite graine continue de s'imposer progressivement dans les habitudes alimentaires. Et comme souvent, le choix final revient au consommateur, partagé entre goût, usage et pouvoir d'achat.
Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Restons au marché, mais cette fois on fait une petite escale sur le comptoir de Diane qui nous parle de la vente de sous-vêtements.
Escale dans Classico.
Bonjour, je m'appelle Diane, je suis commerçante, je fais dans la vente des sous-vêtements hommes et femmes. Bon, on va dire que, vu qu'il faut faire quelque chose dans la vie, je vais dire ça comme ça, je me suis lancée dans la vente des sous-vêtements parce que j'ai vu que c'est ce qui sortait un peu sur le marché. J'ai dit, ah pourquoi pas, donc je me suis lancée dessus. J'ai fait le droit, mais c'est pas un truc qui me passionne, j'ai jamais voulu... Les grandes lectures, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Ce qui me passionne le plus, c'est la médecine. Mais, je sais pas, juste comme ça. Bon, c'est aussi parce que, après le bac, on m'a dit que j'ai pas eu une bonne orientation. Parce que quand j'ai décidé, parce que je voulais faire soins infirmiers, on a dit, ça paye pas et tout, qu'il n'y ait pas de faire. On voulait que je fasse douane et trans. Donc, pour le faire, il fallait que je fasse d'abord le droit, non. Après, continuer, mais je me sentais pas à l'aise à l'intérieur, j'ai laissé. Non, l'idée m'est venue en plus des réseaux sociaux, TikTok. Parce que quand je voyais l'affluence là-bas, je voyais des personnes qui vendaient des sous-vêtements et tout, et ça passait très bien. Donc j'ai dit pourquoi pas, je me suis lancée, je suis allée au marché central, il y a des grossistes là-bas. J'ai payé beaucoup de marchandises, non. Oui, j'ai commencé à vendre, ça passait très bien, très très bien même. Donc c'est un peu comme ça que j'ai réussi à avoir de l'argent dans la poche. J'ai eu l'idée sur les réseaux sociaux parce que j'ai vu l'affluence que la vente des sous-vêtements procurait. Non, j'ai dit pourquoi pas, donc je me suis lancée et ça se passe très bien, donc ça rentabilise comme je voulais en fait. Oui, c'est un peu ça. Je vais dire, les femmes, elles achètent beaucoup pour leurs hommes. Bon, les hommes achètent généralement pendant des fêtes, un peu comme en février pour la Saint-Valentin, j'ai eu beaucoup d'hommes qui ont acheté des sous-vêtements pour leurs femmes. Oui, non, oui. Les femmes aussi aimaient plus les périodes de fête, je vais dire, plus les hommes que les femmes, mais en général, ce sont les femmes. Ça varie entre 500 et 500, oui. Oui, oui, je m'en sors très bien. Comme j'ai dit, non, ça, j'ai beaucoup de bénéfices, donc je ne me plains pas. Oui, bien sûr, dans le futur, je compte ouvrir une boutique de sous-vêtements avec d'autres articles. Mon plus gros revenu, je vais dire, dans mon commerce, je vais dire 50 000. Comme c'est le début, pour moi, c'est pas petit. Avec le temps, ça va augmenter. Les difficultés que je rencontre, on va dire, il y a des jours, vraiment, il n'y a pas le marché. Quand il n'y a pas le marché, vraiment, ça pénalise parce que il faut payer le loyer à la fin du mois. Donc, quand je retrouve à ne pas vendre 3 jours, c'est pénible. Oui, oui, ça m'arrive de payer la marchandise, ne pas tout écouler, non, en un mois, ça arrive. Quand c'est comme ça, je fais des promotions. Oui, je lance des promotions, non, parce que c'est que quand je vais lancer des promotions, je vais réduire les prix ou alors faire des packs. Ça va intéresser des personnes, non, et ils vont acheter. C'est comme ça que je j'aime. Non, non, je fais pas le prêt parce que, bon, j'ai jamais aimé le prêt, je vais dire ça comme ça, là, parce que prêter, là, et après ne pas rembourser, c'est trop de problèmes. Donc, déjà, j'ai déjà la pression de ne pas vendre, de ne pas payer le loyer, ne pas encore aller prendre l'argent chez le grossiste. Donc, ce ne sont pas mes habitudes. Quand, si je vais payer, je paye une fois. Donc, quand je paye une fois. Oui, j'ai déjà eu des altercations avec des clients dues à la matière du produit. Et d'ailleurs, ils disent que non, c'est chinois. Quand c'est comme ça, j'essaye de rassurer le client. J'essaye de... Peut-être je peux faire un don. C'est vrai que ça me fragilise un peu, mais c'est pour garder la clientèle, non. Peut-être que je lui dis que... Donc, je m'excuse d'abord. Et ensuite, je lui propose un arrangement. Peut-être si prochainement, il vient pour faire la recette, je lui donne un de surplus. Ou alors, il choisit ce qu'il veut. 500 et 1500. Bon, je vais dire, il y a certains qui sont de très bonne qualité, il y a d'autres vraiment qui sont chinois, mais c'est pas chinois le genre que... Je vais prendre un peu plus l'exemple sur les dentelles. Les dentelles sont très fragiles, donc quand tu portes la dentelle, il faut faire très attention, sinon tu vas déchirer. Petit mouvement, un mauvais mouvement, là, ça se déchire. Donc c'est en fait au client même de savoir comment arrêter le produit, non? Oui, pour que ça ne se déchire pas, parce que à part ça, le coton est très bien. Le coton dur, ce n'est que les dentelles là qui se déchirent ou peut-être quand tu laves, il n'y a que ça, ce n'est que ça l'inconvénient. Donc, ce n'est même ça au client, en fait, de bien soigner sa façon de porter le sous-vêtement, non, oui. Oui, non, je vends pour tout type de personnes. Donc, tout le monde trouve son compte. Non, j'ai d'autres projets. Ouais, j'ai plein de projets. Mon projet principal, je ne sais même pas si c'est ça ici, là, mais ce n'est pas trop de... Ce n'est pas trop ici. Oui. Et prévoir aller ailleurs, donc. Et faire dans ce que je veux vraiment faire, le soin infirmier. Oui, j'ai commencé une formation. Je vais dire à cette jeune fille de se lancer, de ne pas avoir peur. C'est vrai que c'est prendre un gros risque, mais qui ne risque rien n'a rien, comme on dit souvent. Donc, si elle veut se... En fait, je vais dire ça comment? Parce que beaucoup simplifient la vente des sous-vêtements pensant que non, ça ne donne rien. Mais non, ça donne beaucoup. Ça te permet peut-être de payer ton loyer, de manger, en fait. Donc, ça te permet beaucoup de choses. Donc, de ne pas dépendre des autres. Voilà, c'est le mot même. Ça te permet vraiment d'être indépendante. Même si c'est un petit, 5 000, 10 000, c'est pas petit. Que de peut-être aller mendier et ne rien faire. Tu te lances dessus et tu verras.
Tout savoir sur les dernières innovations dans Classeco.
Direction l'univers de l'élevage avec l'innovation du jour qui s'appelle BankFeed, qui est une application intelligente pour formuler avec précision des aliments pour porc, poulet, lapin, dinde ou alors des poissons. Elle intègre des formations pratiques, des conseils concrets et utiles et vous aide à réduire les coûts tout en améliorant la rentabilité de votre élevage. Donc avec BankFeed, vous avez une formulation automatique et équilibrée, des calculs précis entre protéines, énergie et minéraux. Une application simple à utiliser, même pour les débutants. Vous avez la sauvegarde des formules. Elle fonctionne hors ligne et vous avez également un ajustement des prix selon les ingrédients. L'application est disponible et téléchargeable sur Play Store. Afrique Économie revient aujourd'hui sur des millions de documents qui se retrouvent au cœur d'un bras de fer entre la République démocratique du Congo, la Belgique et une société américaine à Tervuren, à quelques kilomètres de Bruxelles. Une partie des archives géologiques de la RDC dort dans le sous-sol de l'Africa Museum. Kinshasa réclame la numérisation de ces documents, un processus que l'État belge a démarré au début du mois, mais une société minière américaine souhaite réaliser elle-même ce travail, ce que refuse la Belgique.
Ce programme vous est proposé par notre partenaire RFI, Radio France Internationale, la radio du monde.
Voilà, donc vous voyez de quoi on parle. Hein. Il y a 30 mètres d'archives par rayonnage et il y a une quinzaine de rayonnages.
François Kervin, chef du département des sciences de la Terre de l'Africa Museum.
Ce sont des cheminements de géologues sur le terrain qui ont pris des échantillons, qui ont noté sur leurs cartes et puis qui ont écrit leurs rapports.
Des cartes, des rapports, des photos jaunies par le temps. Au total, près de 4 millions de documents qui détaillent le contenu du sous-sol congolais s'entassent dans les archives du musée.
Ce sont des travaux de géologues partis à la retraite et souhaitant laisser leur patrimoine intellectuel à notre institution. Et alors aussi, en grande partie, des travaux de recherche réalisés par les géologues de l'Africa Museum après la période coloniale et de travaux qui ont été réalisés aussi par des chercheurs congolais ou africains plus largement.
Autant de documents qui intéressent les autorités congolaises. Le service géologique de la RDC a demandé à y avoir accès, mais compte tenu de leur volume et de leur état de conservation, impossible de numériser toutes ces archives, impossible jusqu'à l'obtention de subventions de l'Union européenne. Ainsi, il y a quelques semaines, l'Africa Museum a enfin débloqué les moyens nécessaires.
On a recruté 4 géologues pour une partie de ce travail, 4 archivistes également et un informaticien. Ça représente un montant d'à peu près de 2 millions et demi.
Une dizaine de personnes pour faire l'inventaire puis numériser ces documents en 3 ans. Un travail titanesque, mais Kinshasa veut aller plus vite. Au mois de juillet, le gouvernement a signé un accord avec une société américaine, Cobalt Metals. L'entreprise s'est engagée à numériser elle-même les archives pour accélérer son programme d'exploitation minière. Impensable pour Bart Ouvry, le directeur de l'Africa Museum.
Nous sommes une institution publique. Nous travaillons dans un objectif scientifique. Nous reconnaissons l'intérêt économique pour le Congo et notre but, c'est de transférer des données aux autorités congolaises. Pour nous, l'essentiel quand même de notre réponse, c'est de dire non pour une approche au profit d'une seule société, oui à partager toutes ces données avec l'État et finalement avec le peuple congolais.
Le musée est d'ailleurs soutenu par le gouvernement belge. La ministre en charge de la politique scientifique l'assure. Bruxelles ne peut accorder un accès privilégié et exclusif à une société privée étrangère. Arthur Ponchelet, de retour de Tervuren, RFI.
Ce programme vous est proposé par notre partenaire RFI, Radio France Internationale, la radio du monde.
En route vers de nouveaux horizons dans Classeco.
Merci à tous ceux qui font le voyage en notre compagnie chaque jour entre 10h et 12h sur volume 3. Rendez-vous demain dès 10h donc pour le prochain vol en Classeco.
L'émission que vous venez d'écouter est une rediffusion.
Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.